Juan Gxia, bonjour.
Bonjour.
Vous annoncez des résultats concrets en faveur de la paix au Congo-Kinshasa d'ici la fin de l'année. Quels sont ces résultats que vous attendez?
Je pense que ces résultats concrets, c'est d'abord des actions plus concrètes dans la coopération entre les pays signataires de l'accord cadre et surtout les pays clés de cette région. Je pense à la RDC, au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi. Après avoir pris mes fonctions le 1er avril dernier, j'ai déjà effectué une série de voyages dans plusieurs pays. Ce que j'ai reçu comme conclusion à l'issue de ces visites, c'est quand même un signe encourageant d'une meilleure coopération, d'une coopération plus étroite entre tous les pays de la région et surtout entre les pays clés. Je pense que puisqu'il existe une volonté politique forte de mieux coopérer, on pourrait espérer effectivement des résultats plus concrets d'ici avant la fin de l'année.
Alors vous avez en effet été reçu à Kinshasa par Félix Tshisekedi, à Kampala par Yoweri Museveni et à Kigali par les plus hauts responsables rwandais. De quoi s'agit-il concrètement? De rapatriement de M23 au Congo et de FDLR au Rwanda, par exemple?
Ce sont des éléments que nous avons évoqués. Je pense qu'il y a des idées encore plus importantes, mais dans mes échanges avec tous les interlocuteurs, tous ces interlocuteurs reconnaissent les uns comme les autres que cet envol est aujourd'hui empêché et miné par l'insécurité dans l'est de la RDC. Et donc, il faut régler ce problème. J'observe de mon côté que faute d'une présence et d'une capacité dissuasive de l'État congolais dans l'est du pays, de nombreux groupes armés locaux et étrangers prolifèrent, pullulent, et surtout les groupes étrangers, dont les FDLR, l'ADF et des groupes émergents d'origine burundaise ou rwandaise, utilisent la RDC comme base arrière pour leurs opérations contre leur pays d'origine. C'est là une situation qui continue d'alimenter la méfiance entre les pays de la région. Mais je dois dire que dans ce contexte inquiétant, les démarches qu'a entreprises le président Félix Tshisekedi au lendemain de son installation à la magistrature suprême en vue d'un rapprochement régional méritent les félicitations et les encouragements de toute la communauté internationale. Ces démarches semblent porter déjà des premiers fruits.
Alors vous parlez des FDLR, les rebelles rwandais installés au Congo-Kinshasa. L'ONU a supervisé ces derniers mois le rapatriement de plusieurs centaines d'entre eux au Rwanda. Mais ne s'agit-il pas de rapatriement forcé? Est-ce que vous pouvez garantir que ces rapatriés, une fois arrivés au Rwanda, restent en vie et sont bien traités conformément aux conventions de Genève?
Je pense que dans la sous-région, il y a des mécanismes existants. Je pense au pacte de la Sirgel, je pense à l'accord cadre. C'est à nous de travailler ensemble pour traduire en actions concrètes les dispositions de tous ces instruments pour que les conditions nécessaires soient créées. C'est avec ces conditions que nous pourrons mieux réussir dans la réalisation de ces plans DDR.
Ce qui veut dire que pour l'instant, la sécurité de ces rapatriés n'est pas encore garantie.
Depuis beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de succès dans nos efforts pour pérenniser la paix et la sécurité dans la région, mais le tableau n'est pas tout rose, beaucoup reste à faire.
Vous parlez des DDR, il y a plusieurs milliers de combattants de groupes armés du Congo-Kinshasa qui se sont rendus ces dernières semaines. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas pris en charge dans les cantonnements où ils sont regroupés. Ils ont tellement faim, ils sont tellement maltraités qu'ils repartent dans la brousse. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à agir aujourd'hui?
Je pense que la MONUSCO est mieux placée que moi pour répondre à votre question. Je pense que si il y a depuis des mois eu une évolution favorable dans la sous-région et surtout en RDC, nous devons saluer les efforts consentis par le président Tshisekedi au lendemain de son élection. Je pense que ce sont des actions que nous devons encourager et accompagner. Je pense que tous les partenaires, à commencer par les Nations Unies, sont là pour encourager et aider les autorités congolaises à mieux réussir leur travail.
Quels sont à vos yeux les signes de cette évolution favorable en RDC depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi?
Déjà, je pense que depuis son accession à la magistrature suprême, le président Tshisekedi a tenu à effectuer des voyages dans les pays voisins pour afficher une forte volonté politique pour le rapprochement, pour une approche de coopération régionale plus étroite. Et du côté des pays où il était, c'était une réaction très favorable. Je pense aussi aux deux accords de paix signés concernant le Soudan du Sud et la Centrafrique. Et donc, effectivement, depuis plusieurs mois, dans cette sous-région, on voit des élans très favorables, une évolution très encourageante. En RDC, plus précisément, je pense qu'aujourd'hui, on attend un changement et Monsieur le Président Tshisekedi symbolise ce changement.
L'annonce du retour de Moïse Katumbi le 20 mai prochain à Lubumbashi, est-ce pour vous une bonne nouvelle ou pas?
Je pense que depuis son accession à la magistrature suprême, le président Tshisekedi a fait beaucoup d'efforts pour assurer la réconciliation nationale, pour réaliser une entente politique et sociale sur toute l'étendue du territoire. Et dans ce cadre, je pense que nous devons encourager tous les efforts qu'a entrepris, entreprend et entreprendra le président Tshisekedi pour assurer une meilleure réconciliation nationale.
La brusque poussée de fièvre entre le Rwanda et l'Ouganda depuis le début de cette année, est-ce que cela vous préoccupe?
Il y a eu effectivement, depuis quelques mois, des échos de tensions diplomatiques entre le Rwanda et l'Ouganda. Cependant, je relève que jusqu'à présent, les deux pays ont fait preuve de retenue et de leur capacité de tabler sur leurs différends par voie politique. Je vois aussi que de nombreux efforts de rapprochement ont déjà été entrepris pour atténuer ces tensions et ce, en premier lieu, par les deux pays concernés.
Donc vous ne croyez pas à un conflit armé entre le Rwanda et l'Ouganda?
Je crois qu'il y a un élan pour atténuer la tension. Il y a des pays de la région qui se sont aussi penchés sur la question et ont offert leurs bons offices. Et finalement, les organisations de la sous-région sont une utilité diplomatique avérée pour la solution politique de conflits.
Vous avez offert vos bons offices entre Kigali et Kampala?
À ce stade, Monsieur Poivrouvier, j'ai fait juste une mission d'écoute en Ouganda et une autre visite d'écoute au Rwanda. Je suis prêt à y revenir très rapidement.
Quand le Rwandais Paul Kagame accuse l'Ougandais Yoweri Museveni de soutenir des dissidents rwandais qui veulent le renverser, est-ce qu'il a raison?
J'aimerais bien écouter toujours davantage les responsables de ces pays. Je pense que nos amis africains sont suffisamment intelligents pour trouver une solution africaine à leurs problèmes.
Au Burundi, le président Nkurunziza annonce qu'il ne se représentera pas l'année prochaine, mais est-ce que vous le croyez?
Je pense que le président est sincère dans sa déclaration, dans son engagement. Effectivement, tout au long de ma mission dans ce pays, je constate que l'on est focalisé sur l'échéance électorale prévue pour l'année 2020. Et tout le monde souhaite que cette élection se déroule de manière apaisée et crédible. Et je pense que c'est là un point d'entente commun.
Dernière question. Avec vous, Wang Xia, c'est la première fois qu'un diplomate chinois arrive à un poste hiérarchique aussi élevé et aussi sensible aux Nations Unies. Est-ce le signe d'un monde qui change?
Pour ma nomination, je dois profiter de votre antenne pour remercier vivement le secrétaire général pour sa confiance en ma propre personne concernant le recrutement et la nomination des agents et des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies. Je crois qu'il y a cet article, l'article 101 de la Charte des Nations Unies, je cite, sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi. aussi large que possible.
Oui, mais vous êtes chinois et votre pays est à présent le deuxième contributeur financier des Nations Unies. C'est bien aussi pour cela que vous avez été nommé à ce poste sensible, non?
Je pense que si le secrétaire général nomme un haut fonctionnaire dans le système onusien, les premiers critères, c'est-à-dire les premières références, c'est la qualité de travail, c'est la compétence et c'est l'intégrité.
Est-ce que le fait que vous veniez d'un pays qui est de plus en plus présent aux Nations Unies et qui est devenu le deuxième contributeur financier de l'ONU, ça ne compte pas quand même?
La Chine est déjà présente depuis beaucoup de décennies aux Nations Unies et je pense que dans la sélection et la nomination des fonctionnaires dans le système, les Nations Unies respectent scrupuleusement les critères prévus dans la charte et dans les différents actes juridiques et réglementaires.
La Chine est présente depuis 1946, mais n'est-elle pas de plus en plus présente?
La Chine est de plus en plus présente sur la scène internationale.
Antonio Guterres a déclaré récemment devant le président Xi Jinping, vous êtes devenu un pilier central du multilatéralisme. Est-ce qu'avec la Chine, l'ONU peut rester forte malgré les menaces de l'administration américaine contre cette organisation internationale?
Je pense que le secrétaire général a eu raison de défendre farouchement le multilatéralisme parce que le multilatéralisme aujourd'hui, il est menacé. Je pense que toute la communauté internationale doit se mobiliser davantage pour le défendre.
Juan Xia, merci.